pour discerner les paroles d'intelligence, pour recevoir instruction dans la sagesse, la justice, le juste jugement et la droiture, pour donner aux simples de la prudence, aux jeunes âmes de la connaissance et de la réflexion. Le sage écoutera et croîtra en science, et l'intelligent acquérera du sens pour comprendre un proverbe et une allégorie, les paroles des sages et leurs énigmes. Au chapitre troisième, au verset 5, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Au verset 21, mon fils, que ces choses ne s'éloignent point de tes yeux. Garde le saint conseil et la réflexion, et ils seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité, et ton pied ne se heurtera point. Si tu te couches, tu n'auras point de crainte, mais tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Ne crains pas la frayeur subite ni la ruine des méchants quand elle surviendra, car l'Éternel sera ta confiance et il gardera ton pied d'être pris. Au chapitre 11e. Au verset 28e du chapitre 11e. Celui-là tombe qui se confie en ses richesses, mais les justes verdissent comme la feuille. Et au chapitre 14, au verset 32, le méchant est chassé par son iniquité, mais le juste est plein de confiance dans sa mort même. Au chapitre 16e, au verset 20, celui qui prend garde à la parole trouvera le bien, et qui se confie en l'Éternel est bien heureux. Au chapitre 22e, au verset 17 du chapitre 22, incline ton cœur et écoute les paroles des sages et applique ton cœur à ma science. Car c'est une chose agréable si tu les gardes au-dedans de toi. Elles seront disposées ensemble sur tes lèvres. Afin que ta confiance soit en l'Éternel, je te les ai fait connaître à toi aujourd'hui. Ne t'ai-je pas écrit des choses excellentes en conseil et en connaissance pour te faire connaître la surnorme des paroles de vérité? Afin que tu répondes des paroles de vérité à ceux qui t'envoient. Au chapitre 28e, au verset 25, celui qui a l'âme altière excite la querelle, mais qui se confie en l'Éternel sera engraissé. Qui se confie en son propre cœur est un sot, mais qui marche dans la sagesse, celui-là sera délivré. Et au chapitre 29, au verset 25, la crainte des hommes tombe en piège, mais qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. Et enfin, au chapitre 30, le verset 5, toute parole de Dieu est affinée, il est un bouclier pour ceux qui s'attendent à lui. L'Esprit de Dieu, chers amis, avait deux buts devant lui en nous donnant et en nous conservant le livre des Proverbes. Il est évident que le premier but est celui que nous avons dans les premiers versets, dans l'introduction du livre. Cela ne fait aucun doute. Il est clairement dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour discerner les paroles d'intelligence, pour recevoir instruction dans la sagesse, la justice, le juste jugement et la droiture, et les autres pensées encore que nous avons plus loin. C'est là le premier but pour lequel le livre des Proverbes nous a été donné, pour que nous apprenions à connaître ce qu'est la sagesse. Mes pensées merveilleuses, chers amis, il ne s'agit pas seulement de la sagesse en tant que vertu morale, hautement appréciée, hautement appréciable. Il ne s'agit pas seulement de cette vertu morale qui s'appelle la sagesse, mais l'Esprit de Dieu, en nous donnant ce livre, veut nous mettre en contact avec une personne. La sagesse dans le livre des Proverbes est personnifiée. Lequel d'entre nous ignore le chapitre 8? Nous pensons que chacun le connaît. Il n'y a qu'à relire ce chapitre pour voir que la sagesse est plus qu'une vertu morale, c'est une personne. Et cette personne est le Seigneur Jésus lui-même, tel qu'il se révèle à nos âmes dans le Nouveau Testament. C'est en fait celui qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul à la fin du premier chapitre de la première épître aux Corinthiens, s'adressant à des frères qui courait gravement le danger d'être imbu de leur propre sagesse et qui s'en référait très volontiers à la sagesse d'autrefois, à la sagesse grecque, à la sagesse antique, effectivement si célèbre. Ils s'en remettaient à cette sagesse-là. L'apôtre de leur dire, qui est notre sagesse? Christ. Christ, la sagesse de Dieu, Christ, la puissance de Dieu, Christ nous a été fait sagesse de la part de Dieu. Eh bien, déjà dans l'Ancien Testament, et en particulier dans ce livre des Proverbes, nous avons le Seigneur Jésus qui est comme pressenti, qui est annoncé, comme sous ce caractère de la sagesse, il est la sagesse personnifiée. Eh bien, chers amis, c'est là le premier but du livre des Proverbes, nous mettre en contact avec la sagesse, et plus exactement, la sagesse personnifiée qu'est Christ lui-même. Nous avons besoin de nous en souvenir, pas seulement nous donner à connaître ce qui est très important, ce qu'est la sagesse en tant que vertu morale, mais nous donner à connaître déjà par avance la personne de Christ lui-même. Il y a un second but pour lequel l'Esprit de Dieu nous a laissé et nous a donné et nous a conservé ce livre des Proverbes du roi Salomon. Le second but, nous l'avons clairement écrit dans l'un des versets que nous avons lu au chapitre 22e. Il ne fait pas de doute non plus, verset 19 du chapitre 22, afin que ta confiance soit en l'Éternel, je te les ai fait connaître à toi aujourd'hui, toutes ces paroles des sages, tous ces proverbes, toute cette vérité divine que nous avons tout au long de ce livre des proverbes. Une telle vérité, je te l'ai révélée, je te l'ai communiquée, afin que ta confiance soit en l'Éternel. Et nous insistons, chers amis, sur cette pensée-là. Au premier abord, si l'on nous parlait d'un livre de l'Ancien Testament, si l'on nous conseillait la lecture d'un livre de l'Ancien Testament pour nous encourager à cette confiance, pour stimuler davantage notre confiance dans le Seigneur, il est fort probable que l'on nous citerait le livre des psaumes, et certainement que l'on n'aurait pas tort. On nous citerait le livre des psaumes, on nous dirait lisez le livre des psaumes, et combien votre confiance sera, pour ainsi dire, augmentée dans la personne de Dieu lui-même. Mes chers amis, le livre des Proverbes est un livre qui s'adresse avant tout à notre conscience, nous le savons bien. On a dit quelquefois que ce que le livre des Proverbes était dans l'Ancien Testament, l'épître de Jacques l'était dans le Nouveau. Et ce sont deux livres que nous ne lisons pas très souvent, ou disons-le, un peu moins souvent que beaucoup d'autres livres de la parole de Dieu. Ces deux livres, les Proverbes et l'épître de Jacques, s'adressent à notre conscience avant tout. Mais dans le livre des Proverbes, il y a aussi beaucoup de pensées pour notre cœur, pour la nourriture et l'affermissement de notre cœur. Et il y a dans ce livre en particulier, comme dans le livre des psaumes, des encouragements d'un très grand prix à la confiance. C'est là le second but pour lequel le livre des Proverbes nous a été donné, afin que ta confiance soit en l'Éternel. Toutes ces paroles, je te les ai communiquées. Et c'est ainsi, chers amis, que nous venons de faire la lecture de ces quelques passages du livre des Proverbes qui nous invitent à mettre notre confiance en l'Éternel, c'est-à-dire dans le Seigneur Jésus lui-même. Nous avons conscience que dans cette assistance, il y a bien des frères, il y a bien des sœurs qui seraient mieux placées que nous-mêmes pour nous parler de la confiance dans le Seigneur, pour nous exhorter et nous encourager à cette confiance dans le Seigneur. Des frères et des sœurs qui arrivent après de longues années d'expérience de la bonté du Seigneur et de sa fidélité, et qui eux-mêmes ont été gardés dans le chemin de la fidélité, pourraient parler plus facilement, bien plus facilement que nous-mêmes, d'un tel sujet, d'un sujet toujours rafraîchissant, d'une importance pratique si grande. Nous en parlons néanmoins parce que c'est la parole de Dieu et que nous désirons simplement parler de ces quelques passages de la parole de Dieu qui, dans le livre des Proverbes, nous parle de la confiance. Le premier que nous avons lu est au chapitre 3e. Au verset 5 du chapitre 3, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Non seulement nous sommes invités à nous confier dans le Seigneur, mais nous sommes invités à le faire de tout notre cœur. N'est-il pas vrai, chers amis, qu'il y a des moments où nous nous confions davantage dans le Seigneur? Il y a des sujets pour lesquels nous nous confions davantage dans le Seigneur. Il y a d'autres circonstances où nous honorons moins de notre confiance notre Seigneur. Voici Salomon qui, de la part de Dieu, vient nous dire: confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans le siècle d'aujourd'hui, et nous pensons bien que dans les siècles précédents, il en a été bien souvent de même, on nous invite à nous appuyer sur notre intelligence, sur des capacités intellectuelles que le Seigneur a pu nous donner. On se confie, on est invité à mettre notre confiance en nos propres possibilités, en nos propres capacités. L'apôtre Paul lui-même, particulièrement, exceptionnellement doué, dira en écrivant aux Romains: notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Ne t'appuie pas sur tes capacités. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ils sont nombreux les passages dans les Écritures qui nous montrent des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, même le peuple de Dieu s'appuyant sur l'Éternel. Il nous est parlé de ces hommes de Juda au deuxième livre des Chroniques, qui se sont appuyés sur l'Éternel et qui ont eu la victoire sur leurs frères d'Israël, qui eux ne s'étaient pas appuyés sur l'Éternel. Le prophète Ésaïe nous parle, du peuple d'Israël, qui à la fin des temps, peuple régénéré, peuple renouvelé, il nous dit au chapitre 10 de son livre: et ils viendront au nom de l'Éternel, et ils s'appuieront sur l'Éternel, leur Dieu, s'appuieront pas sur eux-mêmes en ces jours-là, jours encore à venir. Ils s'appuieront sur l'Éternel, leur Dieu. Pour prendre un exemple plus près de nous, l'exemple des apôtres, au chapitre 14 du livre des Actes, quand les serviteurs du Seigneur sont à Lystre, à Iconium, qu'ils sont les objets d'une haine et d'une jalousie particulière de la part des Juifs, est-ce qu'ils ont dit: oh, c'est un signe que la porte est fermée, oh, il nous faut aller ailleurs, il ne faut pas rester ici? Non, la parole de Dieu nous dit d'eux qu'ils séjournèrent là assez longtemps. Il semble, humainement parlant, en voyant toute cette farouche opposition, qu'ils auraient pu prendre la décision de s'en aller ailleurs en disant: la porte est fermée, allons ailleurs où la porte se montre davantage, d'une façon plus évidente, ouverte. Non. Il est dit qu'ils séjournèrent là assez longtemps, continuant à prêcher la parole et en la prêchant même en toute hardiesse. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pu rester là, malgré toute cette opposition? Pourquoi est-ce qu'ils ont pu prêcher la parole, et même hardiment? La parole de Dieu nous dit: étant appuyés sur le Seigneur. C'est au début du chapitre 14 de ce livre des Actes. Étant appuyés sur le Seigneur. Ils ne s'appuyaient pas sur eux-mêmes. Ils s'appuyaient sur le Seigneur. Leur confiance était dans le Seigneur. Et voilà pourquoi, en présence d'une telle opposition, ils ont pu rester là et continuer à annoncer la parole du Seigneur. Confions-nous, chers amis, de tout notre cœur au Seigneur, que le Seigneur veuille nous l'apprendre, qu'il veuille nous apprendre à nous qui sommes plus jeunes dans le chemin de la foi, qu'il veuille nous apprendre à nous confier et de tout notre cœur en lui-même, et qu'il veuille nous apprendre aussi à nous défier de notre propre intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Voilà donc un premier enseignement dans ce livre des Proverbes au chapitre 3 dans ce verset 5. Dans le même chapitre, qu'avons-nous lu? Un peu plus loin, nous avons lu au verset 25e, ne crains pas la frayeur subite, ni la ruine des méchants quand elle surviendra. Car l'Éternel sera ta confiance et il gardera ton pied d'être pris. C'est un passage très beau que ce passage où l'Éternel veut bien être la confiance des siens. Il se présente comme voulant être l'objet de la confiance des siens. La confiance est là personnifiée. L'Éternel lui-même sera ta confiance. Accepte-le comme l'objet de toute ta confiance. Peut-être que l'on connaît dans les livres historiques ce passage où l'on voit également la confiance étant personnifiée en Dieu lui-même. Ce passage se trouve dans le premier livre de Samuel. Il s'agit de paroles solennelles de la part de Samuel, un roi qui a été un triste roi et qui s'appelle Saül. Et c'est à Saül que Samuel parle en lui disant « La sûre confiance d'Israël ne ment pas ». Nous pourrions peut-être lire rapidement ce passage au premier livre de Samuel au chapitre 15e. Au chapitre 15e, au verset 28e, Samuel lui dit à Saül, l'Éternel a déchiré aujourd'hui le royaume d'Israël de dessus toi et l'a donné à ton prochain qui est meilleur que toi. Et maintenant la sûre confiance d'Israël ne ment point, elle se repent point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Et vous voyez l'intelligence spirituelle accordée au cher traducteur qui a trouvé bon, parce que cela ne se trouve pas, les majuscules ne se trouvent pas dans les textes originaux. Il a trouvé bon de mettre une majuscule à ce mot confiance. La surconfiance d'Israël ne ment pas et ne se repent pas. C'est une parole solennelle comme en même temps encourageante. Elle était très sérieuse pour Saül. Ce que Dieu avait décidé à l'égard de Saül était décidé. Dieu ne reviendrait pas de ce qu'il avait dit à l'égard de Saül, que le royaume serait ravi d'entre ses mains. Mais alors, après Saül, un autre roi serait suscité, le roi selon son cœur, le roi David, et alors à cet autre règne s'attachent des promesses encourageantes et glorieuses. Voilà pourquoi d'un autre côté, dans une telle parole, il y a de grands encouragements pour nous. Notre Dieu est cela, la sûre confiance d'Israël, qui ne ment point, qui ne se repent point, quand il a fait des promesses d'amour, de grâce et de bénédiction. Ainsi, faisons du Seigneur l'objet de notre confiance et plus encore de toute notre confiance, nous serons gardés et nous serons gardés en particulier dans notre marche de chaque jour. Il gardera ton pied d'être pris. Nous avons besoin d'être gardés. On a souligné bien souvent hier à Alboussière on a souligné bien souvent combien les dangers et les tentations étaient là, toujours présents, placés sous notre chemin par celui qui est l'ennemi de nos âmes. Nous avons besoin d'être gardés, mais nous confions dans le Seigneur, à l'instar de l'homme parfait, de celui qui sur la terre a été ce fils de l'homme parfait de toute manière, et qui a pu dire, garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Si marchant de très près sur ses traces, nous demandons à notre Dieu de nous garder. Mais il veut être notre confiance et il gardera notre pied d'être pris. C'est un encouragement pour tous parce qu'on le sait. Et les frères âgés se lèveraient ici en ce moment pour dire qu'on a besoin d'être gardés à tout âge, à tout âge. Mais nous avons une pensée affectueuse et pleine de sympathie à l'égard de notre jeunesse, de nos jeunes gens, jeunes frères, jeunes sœurs, qui ont, étant donné l'esprit du siècle que nous connaissons, besoin d'une façon toute particulière d'être gardés dans le chemin. Confiez-vous en la puissance du Seigneur, il gardera votre pied d'être pris. Nous sommes gardés, dit l'apôtre Pierre, par la puissance de Dieu, par la foi. Voilà la pensée de la confiance en cette puissance totale du Seigneur. Nous passons directement au chapitre 14. Au chapitre 14, il nous est dit au verset 32 que le méchant est chassé par son iniquité, mais le juste est plein de confiance dans sa mort même. Le juste est plein de confiance dans sa mort même. Est-ce qu'il n'y a pas un puissant témoignage qui est rendu par un frère arrivant à ses derniers moments, ou par une sœur fidèle servante du Seigneur, arrivant au dernier moment de sa vie, et qui manifeste, en l'un que l'autre, cette confiance, même une plénitude de confiance, nous pourrions dire une confiance parfaite. Le juste est plein de confiance, même dans les jours de sa mort, dans sa mort même. Et nous avons tous connu de ces départs qui ont été de véritables triomphes, une confiance totale, une paix parfaite, animée et remplissait le cœur de ces bien-aimés frères et sœurs que le Seigneur rappelait à lui. C'est là la part du juste, chers amis. Le juste dans le livre des Proverbes, bien sûr que d'après la pensée du roi Salomon lui-même, est celui qui marche dans le chemin de la justice. Mais nous sommes éclairés par les vérités du Nouveau Testament et nous savons qui est pour Dieu le juste. Celui qui est le juste est celui qui a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Et qui sait que le Seigneur Jésus a été constitué le péché même afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Si nous devenons, si nous sommes justice de Dieu en lui, ce n'est pas à cause de nous, absolument pas. C'est à cause du Seigneur et à cause des perfections du Seigneur et à cause de la perfection de l'œuvre expiatoire de la croix. Voilà qui est le juste aux yeux de Dieu. Le juste est plein de confiance dans sa mort même. Nous passons au passage du chapitre 16e. Au verset 20, nous avons lu au chapitre 16. Celui qui prend garde à la parole trouvera le bien, et qui se confie en l'Éternel est bienheureux. Il faut s'arrêter sur les deux parties constituant de ce passage. Il ne faudrait pas s'arrêter seulement sur la deuxième partie. Il y a une vérité première importante. Celui qui prend garde à la parole trouvera le bien. Et cette parole revêt une importance particulière quand nous pensons qu'elle a été communiquée par Salomon lui-même. Le roi Salomon est une personnalité qui nous apparaît, dirions-nous-mêmes, attachante. Il vaut la peine, chers jeunes gens, de vous pencher sur l'histoire du roi Salomon. Les débuts de ce roi, alors qu'il est un tout petit enfant qui vient de naître, sont marqués par quelle parole au deuxième livre de Samuel? Au deuxième livre de Samuel, alors qu'il est là, apparaissant dans ce monde, il naît. Et que dit l'Écriture? Et l'Éternel l'aima. On nous a parlé hier de Salomon, de la signification de ce nom, qui nous parle de paix, de grandeur, de gloire. Salomon a eu un autre nom, Jedidiah, bien-aimé de l'Éternel. Et l'Éternel l'aima. Cet homme est parti dans la vie avec une telle déclaration de la part de Dieu. L'Éternel l'aima. Puis nous voyons Salomon grandir, il devient jeune homme, Dieu va se servir de lui. Et qu'est-ce qu'il est dit au début de son activité? Le début de son service est marqué par quelle autre parole? Et Salomon aimait l'Éternel. 2 Samuel 12, et l'Éternel l'aima. 1 Roi 3, et Salomon aimait l'Éternel. Et comment est-ce qu'il montrait son amour pour l'Éternel? Eh bien, il marchait dans les statuts de l'Éternel. Il se soumettait à sa volonté. Il gardait sa parole. Il aimait l'Éternel. C'est un beau début, chers amis. Le roi Salomon, quand on pense au roi Salomon, on pense avant tout au règne glorieux, le plus grand règne qui fut de ce temps-là, en tout cas dans l'histoire d'Israël. Nous pensons à la sagesse exceptionnelle dont il fut doué. Nous pensons à la gloire et la majesté de son règne. Mais il y a aussi quelque chose pour le cœur en rapport avec le roi Salomon. Et ce quelque chose pour le cœur est marqué par ce verbe aimer. L'Éternel l'aima et Salomon aimait l'Éternel. Et c'est ainsi qu'il a commencé dans le chemin de la haute mission qui lui fut confiée à la suite du règne de son père, le roi David. Salomon a eu un privilège particulier. Dieu s'est révélé à lui. Nous pouvons dire qu'il s'est révélé trois fois. Dans le fait qu'il s'est révélé trois fois, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un privilège particulier. Mais quant aux deux premières fois, cela est incontestable. Il se révèle en Gabaon une première fois au roi Salomon, toujours dans ce même chapitre 3 du premier livre des rois. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce chapitre? L'Éternel lui dit simplement ceci. Écoute, Salomon, si tu gardes mes statuts, voici, je prolongerai tes jours. Il n'y a qu'une promesse. Il n'y a qu'une bénédiction promise. Il n'est rien dit du fait que, éventuellement, Salomon pourrait ne pas garder les paroles de l'Éternel, et alors des menaces, et alors un jugement annoncé. Il y a simplement une promesse lorsque Dieu, pour la première fois, s'est révélé à lui. Au chapitre 3 de ce premier livre des Rois, nous lisons ce verset 14e. Et si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes commandements comme David ton père a marché, alors je prolongerai tes jours. Et Salomon se réveilla. C'est tout. Une seule promesse. Mais voici que l'Éternel se révèle une seconde fois à Salomon au chapitre 9 de ce premier livre des Rois. Il se révèle une seconde fois et il nous est dit au verset 2, il arriva que l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Mais cette fois, il n'y a plus seulement la pensée de la promesse, mais il y a aussi la pensée du jugement que nécessiteraient ses voies s'il ne gardait pas la parole de l'Éternel. C'est ainsi qu'au verset 4e, il est dit, chapitre 9 du premier livre des Rois, « C'est toi, si tu marches devant moi, comme a marché David ton père d'un cœur parfait et en droiture, pour faire selon tout ce que je t'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à toujours, comme j'ai parlé à David ton père. » Mais au verset 6, il y a hélas la contrepartie, « Si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et que vous ne gardiez pas mes commandements et mes statuts que j'ai mis devant vous, et que vous alliez et serviez d'autres dieux, et vous prosterniez devant eux, je retrancherai Israël de dessus la face de la terre que je leur ai donnée. » Ainsi donc, Salomon était mis en présence de la volonté claire et nettement exprimée par Dieu lui-même. Si tu gardes mes statuts, je te bénirai. Ah, si tu te détournes de mes statuts, je serai obligé d'intervenir alors en jugement à ton égard et à l'égard de ta semence. Et alors, tableau très pénible à considérer, chapitre 11e, nous avons, il n'est pas parlé d'apparition, si vous voulez, chers amis, mais alors, est-ce que c'est encore en grâce que l'Éternel apparaît à son serviteur? Au chapitre 11, au verset 9, et l'Éternel eut de la colère contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'était révélé à lui deux fois. L'Esprit de Dieu insiste sur ce fait que Salomon avait été l'objet d'une faveur particulière deux fois. L'Éternel lui était apparu. Mais la troisième fois, quelle pénible et quelle douloureuse apparition, il y eut de la colère. L'Éternel eut de la colère contre Salomon parce qu'il s'était détourné de lui, tout simplement, fin du verset 10, parce qu'il ne garda pas ce que l'Éternel lui avait commandé. Et l'Éternel dit à Salomon, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas gardé mon alliance, je t'arracherai certainement le royaume et je le donnerai à ton serviteur. Et voilà, chers amis, l'histoire du roi Salomon, une histoire heureuse dans ses débuts, une histoire heureuse dans sa continuation, mais hélas, combien affligeante dans sa fin. Et nous le disons, la personnalité du roi Salomon nous est malgré tout attachante. Et l'histoire de cette personnalité, de la vie de cet homme, nous est extrêmement est riche en instructions et nous parle. Il sent que cette expression « garder la parole de l'Éternel » domine toute l'histoire de ce roi. Il l'a gardée au début, il l'a gardée par la suite dans sa vie, mais à la fin, il ne garda pas la parole de l'Éternel, et l'Éternel eut de la colère contre son serviteur. Il y aurait bien d'autres pensées à dire en rapport avec le fait que le roi Salomon n'a pas gardé la parole de l'Éternel. Ne nous étendons pas sur ce sujet maintenant, du reste, l'heure approche de son terme, mais nous avons rappelé cela simplement pour montrer combien importante est la parole que nous avons là au chapitre 16 du livre des Proverbes, quand il est dit que celui qui prend garde à la parole, il trouvera le bien. Salomon l'a réalisé un temps, peut-être même longtemps, mais pas toujours, pas durant toute sa vie. Celui qui prend garde à la parole, il trouvera le bien. Et celui qui se confie en l'Éternel est bien heureux. Et alors là, nous touchons à un autre grand sujet du livre des Proverbes, c'est le sujet du bonheur. Nous invitons beaucoup les frères et sœurs à lire ce livre des Proverbes aussi dans cette pensée, ce que l'Esprit de Dieu nous dit au sujet du bonheur. Comment il est possible d'acquérir le bonheur, de connaître le vrai bonheur, de vivre le bonheur selon la pensée de Dieu. Nous avons là une des conditions de ce bonheur, la confiance. Qui se confie en l'Éternel est bien heureux. À nous confier dans le Seigneur, chers amis, il y a une source particulière de bonheur. Le Seigneur sait quels sont nos exercices à tous, personnels, dans nos familles, quel est le père, quelle est la mère, qui ne connaissent pas d'exercice en rapport avec leurs enfants. Nos exercices d'assemblée, quels sont les frères qui ne connaissent pas d'exercice parfois douloureux en rapport avec l'assemblée, les assemblées. Le Seigneur sait, connaît tous les exercices qui sont les nôtres. Il nous invite à nous en remettre à lui, à nous confier en lui. Et il nous dit même que nous serons bien heureux si nous mettons notre confiance de tout notre cœur en lui. C'est le témoignage, pour revenir aux temps actuels, c'est le témoignage qui est rendu à une assemblée comme Philadelphie. Cette épître dans laquelle aucun reproche n'est formulé. Bien au contraire, le Seigneur aime à relever ce qui caractérise ce témoignage qui est faible, qui est représenté par un petit nombre, non pas par une foule impressionnante, un petit nombre. Tu as gardé ma parole. Voilà ce qu'entre autres le Seigneur dit. Tu n'as pas nié mon nom. Tu as gardé ma parole. Eh bien, puissions-nous garder la parole du Seigneur et d'autre part, continuer malgré tout à l'honorer de notre confiance jusqu'à la fin. Nous continuons encore rapidement, chers amis, pour arriver à ce passage duquel nous avons déjà parlé, que nous estimons central au chapitre 22, au verset 19. Nous le rappelons, c'est le passage qui nous montre que le second but pour lequel Dieu nous a donné le livre des Proverbes, et cette raison serait à elle seule pleinement suffisante pour nous encourager à lire un tel livre. C'est afin que notre confiance soit en lui, afin que ta confiance soit en l'Éternel. Je te les ai fait connaître, toutes ces paroles de sagesse, à toi aujourd'hui. Puissions-nous y penser beaucoup, et combien nous serions réjouis, et est-ce que nous osons dire récompensés, nous serions réjouis et récompensés si nous voyons plus de frères, plus de sœurs s'attacher désormais à la lecture du livre des Proverbes, duquel on nous a, dans nos régions en tout cas, relativement peu parlé. Ces dernières dizaines d'années, dans les assemblées, on nous a très peu parlé du livre des Proverbes, exception faite peut-être pour le chapitre 8e, à l'heure de la louange. Si nous pouvions être encouragés à lire davantage un tel livre, ce serait certainement pour nous-mêmes et pour beaucoup un encouragement et, nous osons le dire, même une récompense. Nous continuons et nous arrivons maintenant à la fin de notre méditation. Au chapitre 28e, il nous est dit que celui qui a l'âme altière excite la querelle. L'expérience journalière, hélas, ne fait que de démontrer la véracité d'un tel proverbe. Celui qui a l'âme altière, celui qui est élevé dans ses pensées, celui qui manifeste cet orgueil qui s'attache trop facilement à nous-mêmes, il excite combien facilement la querelle. Celui qui toujours veut absolument imposer sa manière de voir, ses propres pensées, cette âme altière, elle excite la querelle, mais qui se confie en l'Éternel sera engraissé. Une bénédiction est promise pour celui qui se confie en l'Éternel, c'est la prospérité. Et nous le répétons, pour le roi Salomon, il était évidemment question de prospérité matérielle, abondance de biens matériels, de prolongation de jours, cela est incontestable, mais de nouveau éclairé par les vérités du Nouveau Testament, où le témoin du Seigneur est un être céleste, nous pensons à nos bénédictions spirituelles, et si nous comptons sur le Seigneur, si notre confiance est en lui, il veut bien nous accorder ce développement dans la connaissance, dans l'appropriation et dans la jouissance de nos bénédictions spirituelles. Comme le dit le cantique, alors, mais dans la mesure où nous regardons au Seigneur et où nous comptons sur lui, alors mon âme prendrait tout son accroissement. Mais dans le même passage, on a remarqué au verset 26 qu'il est dit « Qui se confie en son propre cœur est un sot ». C'est pour cela que nous avons lu aussi le verset du chapitre 11, duquel nous n'avons pas parlé en son temps. Si il y a ces passages qui, dans le livre des Proverbes, nous invitent à la confiance en l'Éternel, il y en a d'autres qui nous invitent à ne pas nous confier dans les choses et dans les hommes et à commencer par soi-même. Au chapitre 11e, celui qui se confie dans les choses, et spécialement les richesses, ces richesses sur lesquelles on peut si facilement s'appuyer et penser qu'alors on sortira de toutes sortes de difficultés. Ah, Salomon lui-même, et combien cette parole, nous le répétons, a une importance particulière, venant d'un homme, elle venait de Dieu, mais par le canal d'un homme qui était riche, au-dessus et bien au-dessus de tous les hommes de son temps. Il était le plus riche de tous les fils de l'Orient. Un tel homme, et il semble bien que le nombre de cycles d'or qu'il recevait chaque année, ce nombre doit être aussi pris dans un sens allégorique ou symbolique. À combien s'élevait le revenu annuel en cycles d'or du roi Salomon? 666. 666. C'est comme si l'Esprit de Dieu disait, en parlant de ces 3-6, on ne peut pas être plus riche. C'est le sommet atteint. 666, cycle d'or par an. À noter, chers amis, que d'après le livre de l'Apocalypse, le chiffre ou le nombre 666 est le nombre de la bête, c'est un nombre d'âmes, est-il dit, c'est le nombre de la bête, de ce gouvernement qui vient, qui établira son pouvoir sur une grande partie de la terre, la bête dite romaine. C'est 666 qui est son nombre. Or, le nombre des cycles d'or que Salomon avait année après année était précisément cela, 666. C'est lui qui vient nous dire, celui qui se confie en ses richesses, il tombera. Puis dans l'autre passage, nous sommes invités à ne pas nous confier dans les hommes, à commencer par nous-mêmes, mon propre cœur. Celui qui se confie en son propre cœur est un sot. Dans le verset précédent, celui qui se confie en l'Éternel sera engraissé. Mais celui qui se confie en lui-même, il n'est rien d'autre qu'un sot. C'est la parole de Dieu qu'il dit. Et alors, dans le dernier passage que nous avons lu, ou plus exactement l'avant-dernier, au chapitre 29, au verset 25, il est dit que celui qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. Il y a là une seconde bénédiction, et combien nous sommes heureux d'y penser. Si je mets ma confiance dans le Seigneur, par le cantique, nous avons été invités à cela. Confiez-vous en moi, dit le Seigneur. C'est cette voix pleine de charme qui se fait encore entendre. Eh bien, si nous nous confions dans le Seigneur, nous serons à l'abri. C'est là l'assurance d'une parfaite sécurité. La bénédiction du chapitre 28, c'est la prospérité. La bénédiction assurée au chapitre 29, c'est la sécurité. Confiez-vous dans le Seigneur, et alors vous connaîtrez la vraie prospérité spirituelle, et vous connaîtrez la vraie, l'absolue sécurité. Celui qui se confie dans l'Éternel et sera élevé en une haute retraite. Et ces paroles, chers amis, nous voudrions insister et nous ne craignons pas de lasser l'assistance en nous répétant si souvent. Ils ont une grande importance parce qu'ils appartiennent au canon inspiré des divines écritures. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Mais le fait que de telles paroles ont été écrites par un roi, comme le roi Salomon, le plus riche de tous les fils de l'Orient, qui aurait eu toutes les raisons de se confier en lui-même et en ses richesses, c'est lui-même qui vient nous écrire, « Si tu te confies en l'Éternel, tu prospéreras. Si tu te confies en l'Éternel, tu seras élevé en une haute retraite. Prospérité assurée, sécurité assurée. » Ce sont là, chers amis, ces passages du livre des Proverbes par lesquels l'Esprit de Dieu nous invite à avoir confiance et de tout notre cœur dans le Seigneur. Après le roi Salomon, il a été donné à un autre homme de s'exprimer, un homme qui nous paraît être véritablement aux antipodes par rapport au roi Salomon. Il s'agit d'Agur. Agur, auquel il a été confié un oracle absolument remarquable, et duquel les frères à Albussière se sont occupés durant la journée d'hier. Et cet homme si simple, cet homme qui commence par dire ce qu'il est, non seulement qu'il est stupide, c'est déjà beaucoup dire, reconnaître qu'on est stupide, mais venir dire encore, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, et je n'ai pas appris la sagesse, ni possède la connaissance du saint. Voilà cet homme qui reconnaît son néant total et auquel il est donné alors de prononcer l'un des plus admirables oracles de l'Ancien Testament. Et dans cet oracle, il nous dit cette parole, « combien encourageante et combien rassurante. Toute parole de Dieu est affinée, comme on l'a entendu hier, c'est-à-dire parfaite, mais dans le fait qu'il y a ce mot affiné qui est employé, cette parole travaille dans le cœur, cette parole opère dans la conscience. Il y a un effet de cette parole. Elle est toute puissante, opérante, pour agir jusque dans les moindres replis de notre être intérieur. Toute parole de Dieu est affinée, elle est parfaite. Mais ceux qui regardent à cette parole, mais ils connaîtront alors l'absolue sécurité. C'est pour cela qu'Agur ajoute, il est un bouclier pour ceux qui s'attendent à lui. Et il a été ainsi donné à Agur de parler aussi de la confiance, du reste sous des images, des allégories, dans les vérités suivantes. Certainement qu'il y a des allusions et des encouragements à la confiance qui par lui nous sont présentés. Il est un bouclier pour ceux qui s'attendent à lui. C'est là, chers amis, ce que l'Esprit de Dieu, par le moyen du roi Salomon, dans le livre des Proverbes, nous enseigne. Nous avons conscience que nous l'avons dit d'une façon très sommaire, nous enseigne concernant la confiance en Dieu, la confiance dans le Seigneur. Il nous le dit, confiez-vous en moi. Eh bien, répondons à cet appel, à cette voix pleine de charme, à cette voix douce et subtile que nous avons rappelée, évoquée dans notre prière. Répondons à cet appel, à cette sollicitation du Seigneur. Confions-nous en lui pour le temps et pour l'éternité et à l'égard de tout ce qui nous concerne personnellement et dans nos familles et dans les assemblées. Le Seigneur sera ainsi honoré et nous plairons au Seigneur en l'honorant ainsi de notre confiance.